EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Hello tout le monde, heureuse de se retrouver pour ce nouvel épisode vendredi d'À table avec Annabelle. Et si vous n'avez pas suivi les épisodes du lundi et du mercredi cette semaine, je vous encourage parce que c'était une très belle semaine. Et vous l'avez entendu, nous avons accueilli Sandra et c'est bon, elle est encore là, elle a persévéré parce que ce projet vient vraiment de Dieu. Et avant qu'on puisse commencer et accueillir aussi notre invité pour aujourd'hui, je voulais vous remercier, vous, la famille des partenaires, et vous partager aussi un témoignage que nous avons reçu. Et c'est la fille qui écrit pour son papa. Et elle nous dit que son père a été guéri de souffrance et que l'eau qui était dans ses poumons a été séchée et qu'il a vécu un renouveau dans tous ses organes. Il a vécu une belle guérison à travers une des émissions de MCI. Alors un grand merci à vous tous. C'est toujours une grande joie de pouvoir partager ce que Dieu fait dans les corps, dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Et si vous-même, vous avez un témoignage, n'hésitez pas, emcitv.com/témoignage. Et vous pouvez aussi laisser des témoignages, notamment si vous nous suivez sur YouTube. Et si vous nous suivez ailleurs, eh bien, je ne sais pas comment on fait pour laisser des témoignages. Mais sinon, utilisez l'adresse que j'ai donnée pour nous partager vos témoignages. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons une invitée pour terminer cette semaine. Et elle va nous raconter comment Dieu a opéré dans toutes les dimensions de son être, comment Dieu l'a restaurée alors qu'elle était déjà en train de le servir. Et vraiment, je prie que ça puisse toucher votre cœur, parce que peut-être que vous êtes en train de faire de bonnes choses, vous êtes en train de servir le Seigneur, vous êtes actif dans votre église locale et vous dites mais je fais des choses bien, et pourtant vous sentez qu'il y a certaines choses, ça bloque, il y a des luttes, il y a des choses, vous sentez que c'est pas encore entièrement guéri. Eh bien, c'est l'invitation aujourd'hui du Seigneur pour vous guérir, pour vous restaurer entièrement et que vous puissiez être malléable entre ses mains pour suivre son processus et son rythme aussi de guérison et de restauration. Et c'est possible de le faire en entier, corps, âme et esprit. C'est ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Alors, nous accueillons ensemble avec Aurélie et Sandra, nous accueillons Heidi.
Hello.
Bonjour Heidi. Très heureuse de t'accueillir dans À table avec Annabelle. C'est une grande joie. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. Ça fait, vas-y, dis.
Je sais pas, peut-être
plusieurs
8 ou 9
années.
Ans, ouais. Ouais, 8 ou 9 ans. Et bah moi, je t'ai toujours connue aimant le Seigneur et puis servant le Seigneur. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a toujours marquée. T'étais hyper active dans plein de projets, d'initiatives, etc. J'avoue que j'avais du mal à suivre tout ce que tu faisais, où tu allais, etc. Mais en tout cas, on va revenir aussi sur tout ça. Et aujourd'hui, donc, tu es établie dans le sud de la France. Oui. Tu donnes des formations de louanges. Oui. Toi-même, tu es dans la louange, oui, et l'adoration. Et Heidi est aussi la fille de Jonathan et de Anne Berceau, que nous saluons chaleureusement. Et tu disais, c'est un honneur d'être leur fille.
Oui.
Et je crois que c'est un honneur aussi pour eux, que tu sois leur fille, Heidi. Oui. Donc Heidi, on se retrouve après toutes ces années. Et puis, à titre personnel, on n'a pas vraiment gardé contact à s'appeler toutes les semaines. Mais moi, je continuais de te suivre et tout, voir un peu ce que tu faisais et tout. Bon, je comprenais pas tout, j'avoue, parce que il manquait quelques épisodes. Et puis finalement, là, on a pu se parler et tu m'as raconté un petit peu tout ce qui s'était passé au cours des dernières années. Et franchement, après notre appel, j'étais « Oh, wow, Seigneur, t'es bon !» Ah, j'ai trouvé ça hyper beau, hyper rafraîchissant. Alors, j'ai hâte que tu puisses nous le raconter à nous toutes. Et alors, je ne sais même pas exactement par où on peut commencer. Peut-être faire une petite mise en contexte.
Oui.
Donc, on l'a dit, t'es la fille de Anne et Jonathan.
Oui.
Et du coup, bah, t'as grandi dans une famille chrétienne, un foyer chrétien. Et peut-être à quel moment toi t'as fait vraiment une rencontre personnelle avec Jésus?
C'est toujours une question qui est,
ouais,
qui est difficile à répondre, surtout quand on a des expériences très jeunes.
Mm-hmm.
Donc moi, je me souviens d'avoir passé des moments de louange avec le Seigneur en larmes devant Dieu quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans.
Mm-hmm.
Donc je sais que J'ai eu des visions, j'ai eu des rêves, j'ai eu des moments de louange très tôt quand j'étais plus petite. Je me suis fait baptiser, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit et je me suis fait baptiser d'eau à mes 13 ans. Mmh. Et après, j'ai commencé à servir Dieu dans l'église en tant que louangeur à 15 ans.
À 15 ans.
Mmh. Oui, et Dieu développait mes dons. Et au début, c'était un peu drôle parce que je savais pas que je pouvais peut-être avoir un don d'enseignement. Mais les gens, en fait, me le disaient parce que entre les chants, quand je dirigeais la louange, je prêchais. Et du coup, le prochain chant, ça parle de la croix et Jésus à la croix. Et je commence à ouvrir ma Bible et à pleurer.
Ah ouais,
et je me rappelle, il y a une fois, c'était la première fois que j'ai dirigé la louange, j'avais 15 ans. Il y a des gens, ils se sont levés, ils sont partis parce que la louange, elle avait duré trop longtemps. Oh. Dans mon groupe de jeunes.
Ah, dans un groupe de jeunes, oui. En plus.
J'étais en pleurs, Jésus est tellement bon, ils se sont levés. Ils sont...
En fait, t'avais qu'un super moment.
C'est ça. J'ai dit, ok, je dois faire une chose à la fois et le Seigneur a développé mes dons. J'ai commencé par me développer dans le domaine de la musique. J'ai mm-hmm. fait 5 ans d'études supérieure en chant classique pour devenir mm-hmm. chanteuse opéra.
Oh wow.
Donc c'était ça mon rêve, c'était ça ma carrière, c'était tous mes objectifs s'enlignaient vers ça. Je faisais partie d'un collectif, j'avais un agent, je chantais, j'avais un réseau dans la ville de Québec. Et vers la fin de mon bac en chant, ben le Seigneur a mis un gros stop. Mm-hmm. Et j'ai senti Dieu m'appeler et dire « Attention, rappelle-toi des rêves que tu as avec moi ». Mm-hmm. Pas que sur scène ou à voyager dans le monde, à chanter avec les orchestres et tout. Mm-hmm. C'est beau, mais où est-ce que je suis moi là-dedans? Mm-hmm. J'ai vraiment senti cette voix-là. Et j'ai donné un an à Dieu pour remettre ma vie en ordre. Je suis allée à l'école biblique. Mm-hmm. J'ai continué à l'école biblique. Je suis devenue pasteur. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment mis cet épisode.
Moi, je pense que c'est un peu dans cette période-là que ouais, je t'ai connue. Mm-hmm. Moi, j'étais impressionnée, tu vois, une jeune comme ça. Mm-hmm. Puis je me souviens, tu n'importe quand tu parlais la parole,
oui.
Aussi, là, là.
Pas que quand tu chantais.
Chaque occasion bonne ou mauvaise.
Ok, donc toi très jeune finalement t'es rentrée dans le service, oui. Et notamment avec aussi des responsabilités,
oui.
Parce que t'as pris cette charge pastorale. C'est ça. Ouais, c'est ça, t'avais
25 ans. 25 je suis devenue pasteur à temps plein à 25 ans.
Ouais, voilà, à temps plein.
De... Reconnu par les assemblées de Pentecôte du Canada. Donc vraiment, j'avais fini ma licence en théologie, mon bac, et puis j'ai fait toutes les étapes pour être reconnue pasteur, et j'ai commencé...
Et toi, là, à ce moment-là, ok, tu sers le Seigneur, mmh. t'aimes Dieu sincèrement et mmh. tout, mais toi, à l'intérieur, comment est-ce que tu te sens dans toute cette période-là?
Je pense qu'il y avait vraiment juste cette passion, ce zèle de servir le plus possible, mmh. le mieux possible, le plus loin possible. Mais c'est vrai que... Au vu de ce que j'ai vécu dans les dernières années, de ce que Dieu a fait comme transformation, j'ai construit ce ministère sur des bases qui étaient assez fragiles au point de vue de, oui, de mon être en fait, de peut-être des cassures ou des blessures mm-hmm. ou des doutes sur qui je suis, mon identité. Et au final, peut-être je me suis aussi noyée dans mm-hmm. le ministère, dans le travail pour peut-être pas penser aux éléments qui me faisaient peut-être plus de peine ou voilà. Mm-mm. Puis de vraiment en faire le plus possible, Dieu en premier, l'Église en premier. Je disais ça tout à l'heure à mon ami. Il y a eu un temps où j'avais 5 emplois.
Ouais.
Dans la même année.
Ouais. Wow.
Et c'était tout dans le ministère, c'était toutes des responsabilités ministérielles. Et je jonglais avec tellement de rôles et tellement de titres et tellement de fardeaux pour les jeunes, les ados, la louange, mm-hmm. Beaucoup de choses, que c'est vrai que maintenant, en ayant une vision et en ayant un rythme plus lent, je vois à quel point il y a énormément mm-hmm. de grâce là-dedans aussi.
Et mais tu sais, c'est beau dans, je veux dire ça, c'est dans la jeunesse aussi, c'est une force, c'est de pouvoir servir à fond mm-hmm. et de pouvoir être un peu partout, avoir un peu cette folie et puis de un peu moins dormir, de se déplacer, de trucs. C'est pas quand t'es un peu plus vieux, tu dis c'est pas très sage, pas très équilibré. Bon, après dans la jeunesse, c'est cool de vivre ça, mais c'est important aussi de pas tomber dans cet extrême où est-ce que je le fais pour me noyer? Est-ce que je le fais pour me nourrir et pour venir couvrir en fait autre chose? Et ça, c'est quand même important de se le dire. C'est super. Moi, je trouve ça génial de voir des jeunes être à fond, mais tout le temps s'assurer. Ok, est-ce que un, j'ai ma relation avec Dieu, et est-ce que deux, c'est pas un échappatoire? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas un échappatoire une fuite? Ouais, c'était juste ça.
Mais t'as répondu à la question parce que je voulais lui demander est-ce que c'était juste la passion pour Dieu ou alors ça cachait quelque chose de plus profond. Mmh. C'est ça que je voulais te poser comme question.
Oui, je pense que c'est comme quand on a une tache sur notre t-shirt, on peut passer plusieurs jours, si on met le même t-shirt le même jour, mais toute la journée sans le voir. Mmh. Et c'est ce que je pense que je n'avais pas compris encore sur ma force de caractère, c'est qu'il y avait des choses qui étaient encore fragiles dont je ne m'étais pas rendu compte, comme des angles morts. Et à travers les épreuves par lesquelles je suis passée, j'ai pas eu le choix de prendre soin de ces blessures-là, et c'est ce qui me permet maintenant d'aller mieux. Mm-hmm. Mais sur le coup, j'étais pas consciente.
Ouais. D'accord.
Et donc, t'es ici, super. Oui. Là. Et là, grand changement de vie, nouveau projet, tu pars en Australie.
Oui.
Genre à l'autre bout du monde, quoi.
Oui.
Ouais, tant qu'à faire, on fait pas les choses à moitié. Tu pars faire quoi en Australie?
J'ai visité l'église de ma sœur en Australie à l'occasion de la naissance de mon premier neveu. Donc, je suis allée visiter premièrement mon premier neveu. Ah oui, là, je suis une tati
en puissance.
Gaga. Ah, okay. Ah oui, donc, je suis vraiment une super tati. Si je peux le dire ça de moi. Et je suis allée en Australie, j'ai visité l'église de ma sœur. Et en fait, il y a tellement de choses auquel j'aspirais, à quoi une église peut ressembler, que j'ai vu dans cette église en Australie, et j'ai ressenti le désir d'y retourner pour apprendre, pour dire comment est-ce qu'on peut développer nos ministères d'hospitalité, comment est-ce qu'on peut développer la formation, l'entraînement de plusieurs équipes. Il y avait des choses qui étaient très que j'avais jamais vues dans une église avant, et qui m'attirait, et j'ai beaucoup prié, et un an et demi après, j'ai déménagé en Australie dans le désir de fréquenter cette église pendant quelques mois et de revenir au Québec après en ayant appris. Ce qui s'est passé, c'est que en arrivant à l'église là-bas, on s'est rendu compte que mes qualifications et mes rêves coïncidaient parfaitement avec leurs besoins et leurs rêves en tant qu'église. Donc au bout de deux mois, ils m'engageaient comme pasteur dans leur église. Donc, un très grand signe de confiance. Je suis devenue pasteur reconnu en Australie. Et j'ai été pasteur à temps plein pendant deux ans en Australie.
Mmh. Au même rythme que tu avais un petit peu ici au Québec, ou différemment?
C'était différent parce que c'était une église qui avait beaucoup de besoins. Pour une fois, je n'étais pas employée de cinq emplois, mais de un.
Ouais.
Gros.
OK.
Donc, voilà, je m'occupais des familles, je m'occupais des ados, je m'occupais des groupes maison, je m'occupais de la
communauté. C'était une belle saison.
Très belle saison. J'ai beaucoup appris et c'était une très belle saison. Ouais, vraiment.
Et du coup, on constate que tu es revenue ici, en France. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en Australie?
Oui, mais je suis tombée très malade. Oui, et ça a été ma première vague de grosses maladies. Il y a eu deux vagues dans mon histoire, mais ça, c'était la première. Et tout d'un coup, j'avais un problème cardiaque. Je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus marcher. J'avais des palpitations, je me tenais au mur pour marcher parce que je pouvais plus voir comme il faut. Des fois, je conduisais, j'avais les vertiges qui commençaient au volant. Et je disais, Seigneur, amène-moi chez moi en un morceau. Et j'arrivais chez moi, je savais pas comment j'avais fait pour arriver chez moi parce que j'avais ces problèmes-là. Et en fait, on est venu je pouvais pas arrêter de travailler et rester en Australie.
Okay.
Parce que mon visa était relié à mon travail. Et donc ça m'a poussée à rentrer au Québec. Voilà. Ce qui était cool aussi, c'est ce que je veux dire aussi, c'est qu'à travers toute cette maladie, j'ai reçu beaucoup la prière et j'avais vraiment la conviction que Dieu me guérirait quand je serais rentrée au Québec.
Okay.
Et c'était un peu dur à expliquer parce qu'il y a des ministères qui sont là, ils imposent les mains, ils disent « reçois la guérison,
tu es
guéri, Dieu peut te guérir maintenant, Dieu a le pouvoir de te guérir tout de suite ». Et je n'étais pas guérie tout de suite. Et moi, dans mon cœur, je savais « non, mais je dois obéir avant, je dois rentrer, et quand je serai rentrée ».
Tu luttais un peu pour rentrer ?
Mais évidemment, j'avais ma vie de rêve en Australie. J'étais la tati, j'avais mon neveu, ma nièce, j'avais ma sœur avec moi dans une église dans laquelle j'ai développé des amitiés. Je voulais pas partir. Moi, dans ma tête, j'étais là, j'étais bien. et j'ai vraiment ressenti Dieu m'appeler à cette obéissance aveugle. Et c'est miraculeux. J'étais dans l'avion. J'ai pris l'avion en fauteuil roulant.
Oh, wow,
parce que je ne pouvais pas marcher. Et en fait, j'étais dans l'avion. On a atterri à Montréal. Et au moment où l'avion a atterri à Montréal, j'ai senti une force dans tout mon corps. Et j'étais guérie. Dans la vie.
C'était littéralement, tu seras guérie, ok.
Quand tu arrives, Dieu n'a pas perdu une seule seconde à ma guérison.
Du coup, t'es sortie de l'avion.
J'ai sorti de l'avion debout, sans fauteuil. Je suis rentrée dans l'avion en fauteuil.
Ouais.
Je suis sortie sans fauteuil.
Et c'était fini.
Et c'était fini. J'ai plus jamais eu ce problème. Sachant que c'est une maladie cardiaque incurable, pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Et il y a des gens qui vont rendre témoignage de cette maladie-là sur les réseaux. C'est toute leur vie.
Et du coup, tu reviens ici. Tu vis cet épisode quand même assez miraculeux, surnaturel. Dis-moi si je me trompe. Là, tu rejoins un organisme missionnaire dans l'Ouest canadien, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Okay.
Donc, j'ai passé quelques temps à Montréal et ensuite, j'ai déménagé à Vancouver pour rejoindre un organisme missionnaire de mission urbaine. Et du coup, j'étais vraiment très enthousiaste pour cette nouvelle saison de ma vie. Je commence à travailler avec des ministères sur place. Et là, je retombe très malade. Je passe à travers un épisode de dépression clinique. J'ai été hospitalisée pour ma dépression. Et le désespoir total. Je dis, mais Dieu, où est-ce que tu es? Je sais que tu es là, mais j'ai besoin d'aide au secours. Et en fait... c'était à une période où mes parents étaient au Togo. Et j'ai une autre sœur qui habite à Vancouver. Et elle n'était pas capable de prendre en charge non seulement quelqu'un chez elle parce qu'elle avait un tout petit appartement, mais en plus quelqu'un de malade qui a besoin d'aide. C'était pas possible. Donc la seule option pour moi, c'était d'aller chez ma tante en France. Dans un studio que mon grand-père avait construit, qui était meublé. Donc, il y avait quand même ce côté d'indépendance. Il y avait une place pour moi.
Mais là, ça te demandait de déménager.
C'est ça.
D'arrêter ce que tu étais en train de faire.
Exactement.
Dans un état, en plus, pas super.
Oui, voilà. Et donc là, cette fois-ci, c'était une maladie de la thyroïde, pas une maladie cardiaque. Et c'était à peu près les mêmes symptômes. Mes yeux ont gonflé, mais pas de la même manière. Et du coup, je voyais tout double. Pendant des mois, j'ai vu double. J'ai dû faire de la rééducation pour ma vue. J'ai perdu énormément de poids. Et puis après, j'ai pris beaucoup de poids. C'est la thyroïde, c'est toujours très sensible. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Je ne pouvais plus monter les escaliers.
T'es arrivé dans cet état-là en France?
Oui. Oui, donc les missionnaires avec qui je travaillais m'ont dit, mais là, Eddie, tu peux pas continuer comme ça, tu dois aller dans ta famille, tu dois te ressourcer, tu dois recevoir les soins dont tu as besoin. Donc, en une semaine, en étant malade, j'ai fait mes cartons, j'ai tout mis dans un loc, j'ai pris l'avion, encore une fois, en fauteuil roulant, et je suis allée en France. Et en France a commencé ma période de restauration.
C'est que l'histoire ne s'arrête pas là.
Et oui.
Ça pourrait être comme j'ai vécu mes meilleures années.
C'est ça, elles sont derrière moi.
Là, il y a une autre histoire qui commence.
C'est ça.
Et c'est important que tu puisses raconter où t'en étais, tout ce que t'avais vécu. Et je le redis parce que tu faisais des bonnes choses en fait. Tu servais à Dieu, t'as été fidèle. Et donc arrive une nouvelle saison dans ta vie, une nouvelle saison dans ta vie qui finalement semble être horrible, qui a été au final salutaire pour toi.
Exactement.
Donc t'emménages dans ce studio, tu commences à faire un suivi médical.
C'est ça.
Et là t'es forcée d'arrêter en fait aussi tes engagements, tout le service et tout. Comment tu vis ça de vivre un temps creux à ce niveau-là?
Oui, la première fois que je suis tombée malade et que je suis rentrée d'Australie, ce qui a beaucoup été travaillé, c'était mon identité dans le service. Je suis plus que Pasteur Heidi. Mmh. Je suis aussi que Heidi. Et c'est bien. Et qui je suis en dehors du ministère. Et ça, j'étais déjà passée à travers cette guérison-là. Mmh. Mais en arrivant en France, tous mes repères étaient perdus.
Ouais. Mmh.
J'avais plus d'amis. Parce que mes amis, j'ai toujours gardé, j'ai des amis très précieux, mais des amitiés précieuses, mais elles sont loin. Mm-hmm. Je sais pas où je suis en France. Mm-hmm. J'ai rien construit en France, il y a rien devant moi.
Parce que t'es partie, t'avais 10 ans.
J'avais 10 ans.
Oui.
Donc, tout pour moi est un choc. Mm-hmm. Je me dis, ça fait combien de fois que je recommence ma vie quelque mm-hmm. part? Et là, j'ai pas mes cartons, j'ai une valise avec quelques trucs dedans. Et en fait, je dois recommencer. Seigneur, où suis-je? Qui je suis? Je me reconnais pas. Est-ce que je vais sortir de cette saison-là? Les médecins m'ont dit, bon, là, ce que vous avez, c'est très grave. On sait pas combien de temps ça peut prendre avant de se remettre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le traitement est fini, normalement, il n'y a plus de problème. Mais on ne sait pas combien de temps le traitement va durer. Donc là, au début, je fais « Ah, ok, bon, 3 mois, c'est bon. Oh. » Peut-être 6 mois, un long traitement, allez, peut-être 6 mois. Et là, le docteur, il me dit « Entre 2 et 3 ans. »
Oh, c'est long.
Et là, je fais « Mais 2 à 3 ans à faire quoi ?»« quoi ?» Et c'est ce jour-là que j'ai acheté mes citronniers.
Ok.
On en reparlera plus tard. Ouais. Mais j'étais sous le choc de me dire, est-ce que je dois mettre ma vie sur pause pendant 2 ans, pendant 3 ans? Mmh. Et en fait, c'est là que je me suis activée. Je me suis dit, je veux pas qu'aucune journée soit perdue. Mmh. Donc après, des fois, il y avait des journées qui étaient très soft.
Ouais, ouais.
Mais je me disais, Heidi, je suis fière de toi, tu as fait ta vaisselle aujourd'hui.
Mm-hmm. Parce que tu étais très fatiguée aussi.
Énormément fatiguée. Je dormais presque toute la journée.
Okay.
Mm-hmm. Ça m'épuisait juste de parler à quelqu'un.
Wow.
Je pouvais pas sortir dans les magasins, il y avait trop de bruit, il y avait trop de gens. Mm-hmm. J'ai été isolée chez moi pendant au moins 9 à 10 mois.
Mais c'est une décision.
Sans sortir.
Que tu as prise de rendre que chaque jour soit quelque chose de bien. Tu as vraiment marqué cette chose-là.
Oui, je disais à la hauteur de ce que je peux faire. Moi, je veux m'engager à vivre dans une maison propre parce que j'en ai besoin. Mm-hmm. Et donc, je m'encourageais. Je disais, allez, on lave, on passe l'aspirateur, on lave les draps, on ouvre la fenêtre. Mm-hmm. Et des fois, c'était la seule chose que j'avais fait dans toute la journée, mais j'étais contente. Mm-hmm. Aujourd'hui, je me suis lavée, j'ai brossé mes dents, j'ai mis des habits propres. Mm-hmm. C'est peut-être tout ce que j'ai été capable de faire, mais je me suis activée, j'ai fait quelque chose. Et au fur et à mesure, j'ai fait de plus en plus. Je dois prendre rendez-vous chez le médecin, je prends rendez-vous chez le médecin. Je dois aller faire mes prises de sang, je me dis dans mon calendrier, telle date. Ça a été quelque chose pour moi, parce que pour une fois, mon calendrier était vide. Il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de grande date, il n'y avait pas d'implication, il n'y avait rien. Je regardais mon calendrier Google, vide. C'est la première fois dans ma vie que ça m'arrivait. Vide, rien. La seule chose, c'est « Ah, c'est Pâques okay !» Pâques. Et oui, toi, Sandra, tu sais, quand on chante Pâques, c'est énorme. Tu es bien placée pour le savoir. Ah oui, merci Seigneur, c'est Pâques. Ok, qu'est-ce que ça change dans ma journée? Pas grand-chose, mais je vais méditer là-dessus, mais ça implique rien que j'ai besoin de faire.
Et dans ta relation avec le Seigneur, c'était comment à ce moment-là?
C'était très intériorisé. J'exprimais pas beaucoup. Donc les gens autour de moi, peut-être se sont inquiétés en se disant, Heidi, peut-être elle a lâché la main du Seigneur. Mais non. Mais j'avais même pas l'énergie de m'expliquer.
Okay.
Mais j'avais vraiment cette communion avec le Seigneur où je sentais qu'il me tenait. Il y a des fois même, je m'endormais le soir et c'était comme si je dormais sur l'épaule de Jésus comme ça. Et je sentais une présence qui me portait. Il y a des moments où je me sentais vraiment comme si Jésus était avec moi dans la pièce. Et c'est ce qui m'a portée. Et même si je ne l'ai pas beaucoup exprimé ou que je... Peut-être le fait que je refuse peut-être d'aller à l'église parce que je n'arrivais pas à sortir de chez moi. Mm-hmm. Ou s'il y avait un groupe maison dans ma maison, ben, je n'y participais pas. Donc ça avait peut-être l'air de loin que voilà, j'étais peut-être découragée ou réticente. Mais en fait, c'est vraiment que entre moi et Dieu.
Ouais.
Et j'ai vraiment vécu ce moment d'intimité de dire, ben, il n'y a que toi, Seigneur. Et j'ai l'énergie pour faire une seule chose. Et ma seule prière, c'est au secours.
Mmh.
Aide-moi.
Mmh.
Et le Seigneur a répondu à ma prière. Mmh. Ça a pris plusieurs mois, même années, mais il a répondu. Et ça, c'est très, très beau.
Et tu vois, une des choses, tu dis, c'est chaque jour, bah, j'ai refusé que de ne rien faire. Chaque jour, tu t'es confié en Dieu de tout ton cœur. Et quand on dit de tout son cœur, bah, en fait, c'est, ça ressemble, ça a des formes différentes selon nos vies, selon nos saisons aussi. De tout ton cœur, des années avant, c'était pas de tout ton cœur, ça ressemblait pas à ce
que
c'est sûr. Mais tu vois, ce que je vois, c'est la fidélité de Dieu quand on est là, en fait, et qu'on n'abandonne pas. On se dit, mais j'ai tellement peu à donner. T'es comme cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Et c'était peu aux yeux, aux yeux des autres en termes de montant, mais en termes de ce qu'elle, elle avait, c'était tout. Et tu vois comment Dieu multiplie, comment Dieu a pu prendre ça. Et un petit peu d'énergie, une petite décision, une petite prière, c'est tout ce que je peux te donner aujourd'hui. Et sachant que t'étais vraiment dans un état... un état, c'était pas par la flemme ou quoi que ce soit.
Très sérieux.
Ouais, voilà. Et de compter, tu vois, sur la grâce de Dieu, qu'à la fois on se dit, c'est tellement petit, qu'est-ce que Dieu va en faire? Bah, voilà, ce que Dieu va en faire. Quelques temps plus tard, Heidi, elle est là, elle peut voyager. Bon, je casse le suspense, mais tu sers à nouveau le Seigneur et tout ça. Tu t'es redéployé d'une nouvelle façon, encore plus grande, je dirais. Mais c'est parce que t'as pas lâché, en fait. Dieu, c'est sûr, il nous lâche pas. Mais toi, t'as pas lâché pendant ce temps-là, même si ça semblait petit au début.
Exact.
Et c'est ça, quand on dit être fidèle dans les petites choses, c'est pas genre, je suis fidèle, je souffre. C'est non, sois fidèle parce qu'en fait, tu continues de, tant que tu continues d'être là, tant que tu continues de semer, il va y avoir, il va y avoir une récolte.
Ouais. Et même, tu vois, j'aime, comment tu as réagi vraiment à ça, de te dire, mais je vais compter sur lui et chaque jour, il y a quelque chose que je vais faire. Parce que parfois, on n'est même pas dans des cas aussi graves que le tien. Et puis, on peut se décourager facilement, tu vois. Et il faut pas aussi attendre forcément d'être, entre guillemets, dans le trou, là, au plus bas, pour se dire, mais je vais compter sur toi aujourd'hui, Seigneur. Et juste le fait que toi, tu l'aies fait dans cette situation-là, mais ça montre à quel point, tu vois, on peut vraiment s'attendre à lui, mais de façon constante, pas juste qu'on est en bas, mais même quand tu te sens bien, même quand tu sens que, ok, la vie est rose, etc., mais il y a ce truc de se dire, chaque jour, quelque chose doit se passer, et je compte sur toi. J'aime beaucoup ce truc.
Je trouve ça beau, cette image, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais 5 emplois, puis on rigolait, puis là, finalement, là, pour le coup, tu faisais plus rien. Puis j'avais comme cette image que dans tous les cas, que tu œuvres et que tu fasses toutes ces choses pour Dieu ou que tu fasses rien, l'amour de Dieu envers toi était le même, il change pas. Puis souvent, nous aussi, on va avoir notre amour envers Dieu va changer parce que quand tout va bien, qu'on est actif, qu'on fait plein de choses, on se dit, oh ben, merci Seigneur parce que ma vie va bien, je te sers. Puis quand finalement, on fait plus rien, là, ce soit, oh ben Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ou tu m'aimes pas. Et puis nous, on va le laisser tomber, puis de voir que finalement, que tu sois hyper actif, que t'aies 5 emplois, un gros emploi, ou finalement que tu fasses rien, ben, t'aimes Dieu, puis tu te tiens à Dieu, et je sais que Dieu te faisait sentir qu'il t'aimait aussi, puisque tu dis que tu sentais sa présence, puis je trouve ça beau, ces deux images full time, à finalement, je peux plus rien faire, mais Seigneur, peu importe que j'ai ou que j'ai pas, ben je reste ton enfant, puis je reste proche de toi. C'est vraiment inspirant.
C'est clair. C'est que l'amour de Dieu ne change pas envers nous, déjà, bon, qu'à fois on a besoin d'une révélation, mais que notre amour envers Dieu ne change pas, ben ça, c'est aussi une grosse étape. Et c'est dans l'épreuve, en fait, que tu sais où t'en es dans ton amour envers Dieu, et si il a tendance à fluctuer, ben, il faut être honnête, et puis te dire, ben Seigneur, franchement, franchement, je te demande pardon parce que je me rends compte que c'était plus facile de t'aimer quand j'ai l'impression que tout allait bien. Ouais. Mais bah, tu sais, je veux rester attachée, je veux rester accrochée et d'apprendre à aimer Dieu en fait dans toutes les saisons de notre vie. Et dans tout ça, tu vis donc les petits progrès au fur et à mesure. Mais si je vois le temps qui passe et je veux vraiment qu'on ait le temps d'en parler, c'est tu vas quand même mieux, je pense, à ce moment-là. Il s'est passé pas mal de choses.
Oui.
Mais tu vis un moment assez tournant dans ta vie. Quand tu t'es, je sais pas comment le dire, mais exposée à les délivrances.
Oui, c'est vrai. À travers ces mois, ces années, dans le secret, que personne ne savait où j'étais. Toi, tu ne savais pas où j'étais. Il y a plein de gens, on pensait que tu avais disparu. J'étais vraiment cachée en Dieu dans ma petite ville en France. J'ai lu, je me suis rapprochée de Dieu. Je me suis intéressée à certains livres sur la guérison émotionnelle, sur peut-être le développement personnel. J'ai mis ces choses-là en pratique. Et je me suis rendue compte que il y avait des patterns de maladies dans ma vie. Il y avait des patterns d'épuisement. Il y avait des patterns de peut-être hyperactivité et puis ensuite plus rien. Et même avant d'être pasteur, j'avais vécu déjà plusieurs épuisements. Et j'étais là, Seigneur, en fait, je veux pas que la musique elle continue. Je veux pas aller mieux et retomber malade après.
Ouais.
Que cette fois-ci, ça soit la dernière fois que je me relève. Et que je puisse continuer à rester debout. Et en fait, je voyais ma guérison progresser et puis j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce qui pourrait peut-être me bloquer ? J'ai prié par rapport à ça. Et j'ai ressenti aussi une paresse où je dis, mais normalement, je vais beaucoup mieux, mais j'arrive pas à faire plus. Et à ce moment-là, je faisais une formation en graphisme. Et puis, j'arrivais pas à finir mon portfolio. J'y arrivais juste pas. Je disais, oh, mais en même temps, je suis malade. Je peux utiliser ça comme excuse et dire, mon portfolio, je l'ai pas fini ce mois-ci, le mois prochain. J'ai pas de date d'examen, donc je peux attendre. Et après, j'ai pris rendez-vous avec un ministère. J'ai une de mes amies, en fait, qui m'a raconté son témoignage de délivrance. Ça m'a bouleversée parce que j'ai dit, mais en te connaissant, j'aurais jamais pu penser qu'il y avait un avant à ça. Et je vois comment t'es maintenant et je veux ça. Et je me rappelle avoir fait cette prière. Seigneur, s'il y a des choses que j'ai besoin, desquelles j'ai besoin d'être délivrée, montre-les-moi et délivre-moi, Seigneur. J'aspire à cette liberté. Et en fait, c'est là que ça a commencé. Et on a prié avec une pasteur qui a fait beaucoup ça. Et elle discerne beaucoup. Et elle commence à prier, et puis on passe à travers un moment de repentance aussi, d'essayer de faire les choses par mes propres forces, ou d'essayer de faire le ministère, ou les choses que je peux faire pour mériter l'amour de Dieu. Donc on passe à travers ces différentes choses-là. Et dans cette rencontre-là, je reçois vraiment une délivrance, déjà d'un esprit de mort. Et ça a été très très fort, parce que je pensais que la dépression, c'était vraiment que ma maladie, parce que c'est relié à la thyroïde aussi, parce que c'est des hormones, en tout cas, voilà. Je pensais que peut-être ma mélancolie, mon côté un peu artiste, qui aime penser à la pluie qui tombe, les films en noir et blanc, la poésie, tu sais. Je pensais que c'était une partie de ma personnalité, mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y avait vraiment cet esprit de mort qui voulait ma perte. Qui voulait me détruire et qui voulait m'éteindre, vraiment m'éteindre. Et quand j'ai reçu cette délivrance, j'ai ressenti une chaleur dans tout mon corps. Et j'étais là, je disais à la fille, j'ai chaud. puis elle dit, c'est normal, la vie, c'est chaud. Et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé beaucoup de joie. J'ai retrouvé l'envie de me faire des amis. Parce qu'après, non, mais moi, je suis une introvertie, moi, je suis une artiste. J'ai pas besoin d'avoir 1000 amis. Et puis là, au final, c'est non, je veux te connaître, je veux te parler. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? J'ai retrouvé cette dynamique-là. Et dans la même rencontre, on a prié. Elle dit, je ressens qu'il y a quelque chose. C'est un esprit d'assoupissement et de paresse. Et là, on a prié pour ça, j'ai été délivrée. Et à partir du moment où on a prié pour ça, j'ai eu un feu.
Ah ouais.
Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis une lève très tôt.
Une lèvre très tôt.
Voilà. Pas une lèvre tôt, une lèvre très tôt. Et là, c'est vrai qu'avec les années de maladie et tout, c'était bon, je me lève quand je me lève, Seigneur. Je veux dire, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... C'est normal, c'est ce que mon corps avait besoin. Mais là, c'était un shift où je vais de mieux en mieux. Là, c'est le temps de retrouver la vie active et j'y arrivais pas. Quand on est habitué à faire 4 siestes par jour, c'est dur.
Mais moi, j'avais pour toi, ça.
Quand on est habitué à ce rythme de vie-là, c'est dur de se relancer comme une locomotive. Mais voilà. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillée, hop, 5h30. Je suis prête, j'ai plein d'idées, je pouvais faire des heures sur mon ordinateur, j'ai fini mon portfolio, mais comme ça, j'ai passé mon examen. Le Seigneur a commencé à me donner des idées, j'ai commencé à écrire. Mm-hmm. J'ai fini presque un manuscrit pour un nouveau livre.
Bah ouais. Wow.
Et là, en fait, je dis, Seigneur, tu m'as donné une Red Bull spirituelle, là? Non, ça c'est le normal.
Oh wow.
Ce qui n'était pas normal... C'est ce qui te bloquait, c'est ce qui t'épuisait, c'est ce qui te faisait t'assoupir, c'est ce qui te ralentissait de paresse. C'était une façon que le diable utilisait pour te ralentir et t'empêcher de me servir. Maintenant que ça bloque plus, là ça y est, je suis revenue. I'm back. C'est ça. J'ai commencé à donner des cours de chant à des gens, mais on se rencontrait dans la rue. Je faisais un truc pour la fête de la musique. La personne, elle vient me voir après. Elle fait, j'ai du mal à respirer. J'ai dit, vas-y, pousse. Je commence à lui donner des cours de chant, mais dans la rue, à Marseille. Et puis là, je fais, ah Seigneur, je me sens prête à redonner des cours de chant. Papa. Ah,
mais si on croise dans la rue, c'est bon, on peut te poser des
questions. Bien sûr. Cours de rue. C'est ça. Et j'ai ressenti, en fait, cet élan de tout ce qui dormait en moi s'est réveillé.
Oh wow.
Tout mon désir de servir, mais aussi mes dons, se sont réveillés, ressuscités. Mais mon don d'enseignement, de prêcher, d'accompagner les gens. Et là, maintenant, ça coule. Je fais même pas d'effort, ça y va tout seul.
Et t'as parlé des citronniers, on va quand même regarder pour la petite histoire les citronniers. Donc que t'as acheté quand t'as eu ce fameux diagnostic.
Ouais, la journée même.
Et on voit qu'il y a une croissance sur dans tes citronniers. La dernière photo, on voit qu'ils sont bien remplis.
Oui.
Il y en a pour de vrai. C'est des vrais.
C'est ça. C'est des vrais.
Ok. Raconte-nous rapidement la petite histoire des citronniers.
Quand j'ai acheté mes citronniers, c'était en rentrant de chez le docteur, j'avais besoin de me consoler, de me donner une petite surprise pour aller mieux. Et j'ai décidé d'acheter j'aime beaucoup les plantes, j'ai acheté ces deux citronniers. Et dans les journées où j'avais rien à faire, je m'asseyais à côté de mes citronniers, je les regardais. Je les observais. J'avais rien d'autre à faire.
Ça monte le degré.
Ah oui, vraiment. Vraiment, parce que normalement, je marche, je fais beaucoup de randonnées et tout ça. Là, j'avais pas l'énergie de marcher. Donc, je me mettais ma chaise dehors sur la terrasse. Puis j'étais là, je regardais mes citronniers. C'était ma sortie de la journée. Et à un moment donné, la première fleur arrive. Je m'émerveillais devant cette fleur et j'étais tellement contente et ça sentait tellement bon et la fleur elle tombe. J'étais là, Seigneur, non, ma petite fleur elle est partie. Et puis en fait, dans le fait de tous les jours prendre soin de mes citronniers, je les ai bichonnés, je leur chantais des chansons. C'est vraiment, mais
C'est
ça. Et en fait, le Seigneur s'en est servi comme d'une vision un peu prophétique de ma vie, un miroir. Et là, le citronnier, il faisait aucun fruit, aucune fleur. Il n'était que avec des feuilles. Et le Seigneur, à un moment donné, m'a dit, mais si toi, tu es capable de autant aimer tes citronniers qui produisent rien, imagine comment moi je t'aime quand tu produis rien.
Wow. C'est beau ça.
Et j'étais là, mais Seigneur, t'as tellement raison, parce que juste d'arroser mes citronniers, ça m'amène tellement de joie. Comment toi, tu prends plaisir à m'arroser, Seigneur. Et tranquillement, à un moment donné, ça correspondait avec un moment où j'ai commencé à servir dans mon église, j'ai recommencé à servir dans la louange dans mon église, à très petits pas. Et à ce moment-là, mon citronnier a fait beaucoup de fleurs. C'est trop bien. C'est le moment où je recommence à servir, les fleurs sont là. Et j'étais là, ça y est, Seigneur, toutes les fleurs, ça représente des fruits. Et là, ça veut dire que je vais porter du fruit dans ton nom. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Et là, en fait, mon citron, Tous les petits mini citrons sont tombés, sont devenus noirs, sont tombés. Ah. Elle a plus de fleurs. Oh. Et là, j'étais là. D'accord. J'étais pas prête. Le citronnier, il était pas prêt à faire un gros citron. Et du coup, je réfléchissais et puis je méditais là-dessus. Moi, je suis très poète. Alors, qu'est-ce que mon citron essaie de me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire à travers les citronniers, hein? C'est plutôt ça. J'étais là, c'est vrai, Seigneur. Peut-être que je me suis trop embarquée trop vite dans le service ou je me suis dit que j'étais prête. Peut-être tu montres que je suis pas prête. Je vais faire attention. Et ça a été vraiment un précurseur pour me montrer de faire attention au rythme dans lequel je recommence à servir. Ça m'a beaucoup aidée. Mm-hmm. Et après, mon citronnier, c'est un citronnier, il a fait une mandarine.
Mmh. Ça, c'est étonnant.
Et si on regarde la photo, vous allez la voir, la mandarine, elle est là.
Oui.
Vous voyez la orange?
Oui, oui, oui.
On ne sait jamais, encore à ce jour, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là.
Heidi, faut qu'on ait la fin de l'histoire. Donne-la-nous la
fin. Je suis partie. Pardon. Je suis partie en France. Je suis partie au Canada pour servir Dieu, pour recommencer mon ministère. Et le jour où je suis partie, il y avait peut-être une trentaine de citrons sur mes citronniers, des fleurs, des gros citrons, des petits citrons. Et
une mandarine. Magnifique.
Et une mandarine.
On ne sait toujours pas à l'heure actuelle pourquoi la mandarine.
Je pense que c'est une bouture hybride de magasin qui a dû faire un fruit bizarre.
Oh, c'est une signification.
Mais voilà, des fois on s'attend pas à ça, mais Dieu nous donne des choses.
Merci Heidi. Moi, ce que j'aime dans ton témoignage, c'est comment Dieu a opéré dans toutes les sphères de ton être et comment il l'a fait, mais aussi ce que tu lui as donné en fait. Et de voir que, je le redis, donner ce que vous avez, ça vous semble tellement insignifiant, mais c'est comme cette image du citronnier. Mais en fait, Dieu prend plaisir à arroser et il va y avoir une saison où à nouveau vous allez porter du fruit. Une saison où votre cœur va être totalement guéri. Une saison où votre corps sera guéri. Une saison où spirituellement vous serez entièrement délivré. Et c'est peut-être pas la peine d'attendre 5 ans, 10 ans, mais c'est en tout cas, je sais pas comment Dieu va le faire dans votre vie, mais une chose est sûre, c'est que si ça vous interpelle, bah c'est le moment de passer un temps avec le Seigneur et de dire, ok Seigneur, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que moi aussi j'ai besoin de guérison? Est-ce que je me suis perdue dans le service? Est-ce que je me suis perdue dans mon travail, dans ma famille peut-être, avec mes enfants? Mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui réellement avec toi? Et ce que tu veux faire, fais-le. Je veux être entièrement libre. Et je veux porter du fruit sans qu'il y ait aucun frein à tout ça, comme tu l'as fait dans la vie d'Heidi. Et vraiment, c'est beau ce que Dieu a fait. Merci de nous l'avoir raconté. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Et merci à tes citrons d'avoir poussé.
Merci Seigneur. Vraiment, c'est à lui toute la gloire. Vraiment.
Bon, en tout cas, on va continuer de te suivre, Heidi. Et merci à vous les filles d'avoir été avec nous. Et puis à vous toutes, bon week-end, bonne fin de semaine. N'hésitez pas, envoyez vos témoignage, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.